Radio Campus 102.4.
Hello You, un titre d'Arctic Monkey sur les ondes de Radio Campus Besançon 102.4. FM, il est midi 39, on poursuit le programme de sortie d'un film. Nous recevons désormais Benjamin Capelli, juriste, et Sarah Lambert, étudiante en droit. Bonjour, vous allez bien ?
Bonjour.
Oui, ça va.
Ça va bien.
Alors, vous êtes membre de l'association de protection des consommateurs UFC Que Choisir, et comme chaque mois, vous revenez pour nous donner des astuces et conseils autour d'un sujet de consommation. Et ce mois-ci, vous allez nous parler des dégâts des eaux.
Et oui, ben, les dégâts des eaux, c'est quelque chose que tout le monde connaît ou connaîtra un jour, hélas. Hein. Donc, c'est les robinets mal fermés, les fuites sur une canalisation, les infiltrations au travers de la toiture, la baignoire qui déborde. Alors, tous ces incidents, ça reste les plus courants et engendrent des coûts élevés donc, pour les assureurs et de nombreuses difficultés pour les assurés. L'assurance dégâts des eaux est aujourd'hui incluse dans la quasi-totalité des contrats multirisques habitation. Mais, si cela peut paraître simple à première vue, la gestion des sinistres peut parfois devenir compliquée. Nous allons donc faire un petit tour d'horizon aujourd'hui sur ce point. Alors Sarah, déjà pour commencer, est-ce que je suis obligatoirement assurée en cas de dégâts des eaux ?
Alors, pour les propriétaires, l'assurance contre les dégâts des eaux est facultative, mais elle est souvent incluse dans les risques couverts par l'assurance multirisque habitation. En revanche, pour les locataires, il s'agit d'une assurance obligatoire qui sera comprise dans l'assurance habitation. L'assurance dégâts des eaux couvre des dommages causés aux biens de l'assuré et provenant notamment des fuites, ruptures ou débordements des conduites d'eau. La plupart des contrats précisent que seules sont couvertes les canalisations non enterrées. Ça concerne notamment aussi les fuites, ruptures ou débordements d'appareils à effet d'eau, donc baignoire, lave-linge, lave-vaisselle, cumulus et de chauffage, l'engorgement et les débordements des gouttières et chaînaux, ou encore les infiltrations d'eau ou de grêle à travers les toitures. Toutefois, à l'étendue de la garantie dégâts des eaux, n'est définie par aucun texte, elle peut donc varier d'un contrat à l'autre. Il faudra donc vérifier votre couverture pour savoir si vous disposez de garanties supplémentaires. À titre d'exemple, certaines assurances vous couvriront des conséquences financières liées à une facturation d'eau consommée plus importante en cas de fuite. Mais alors Benjamin, quelles sont les premières choses à faire en cas de sinistre ?
Alors, la première des choses à faire est de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le sinistre ne continue de s'aggraver. Alors, par exemple, ça va être couper votre arrivée d'eau ou protéger vos meubles et vos affaires de l'eau. Pensez également donc à éponger, mais aussi à aérer. Si la fuite provient de chez l'un de vos voisins, alertez-le ou, en cas d'absence, demandez au gardien ou au concierge ou encore au syndic ou à l'agence immobilière de couper l'arrivée d'eau de l'immeuble. Si vous devez appeler un plombier, évitez d'avoir recours directement à celui-ci et informez déjà votre assurance, car il se peut que les frais puissent être pris en charge par l'assureur. Si vous n'êtes pas le seul à être touché, il faudra ensuite remplir un constat amiable avec les autres parties, souvent le ou les voisins et le syndic de l'immeuble. Il faut veiller à la bonne rédaction du constat, comme en matière de sinistre auto, car cela pourra influer sur la prise en charge de votre sinistre. Pensez également à prendre des photos afin de constituer votre dossier. Enfin, n'oubliez pas de déclarer au plus vite le sinistre à votre assurance, car si vous dépassez le délai pour faire cette démarche, l'assureur pourrait dans certaines conditions refuser d'intervenir, notamment si cela a eu une incidence sur la gravité du sinistre. Alors Sarah, est-ce que ton assurance va toujours t'envoyer un expert en cas de dégâts des eaux ?
Alors si c'est souvent le cas, cela n'est pas automatique. En effet, si le sinistre est minime et que l'indemnisation en jeu ne dépasse pas les 1 600 € hors taxes, alors l'assureur n'enverra pas automatiquement un expert. À noter que si plusieurs personnes sont impactées par le dégât des eaux, ce n'est pas nécessairement votre assurance qui engagera les opérations d'expertise, et ce, indépendamment du fait que vous soyez ou non à l'origine du sinistre. Pour certains sinistres, les assureurs ont conclu une convention dénommée IRSI qui prévoit la procédure applicable et désigne notamment une assurance comme gestionnaire du sinistre. Sachez que l'expert mandaté par votre assurance n'a pas d'obligation de vous communiquer son rapport d'expertise. Toutefois, les compagnies d'assurance se sont engagées à transmettre la copie du rapport à leur assuré en cas de demande. Il s'agit en effet d'un document important car il peut fonder la décision de l'assureur de ne pas couvrir et vous devrez pouvoir en contester les conclusions. Souvent, pour contester un rapport d'expertise en dehors du chiffrage de l'indemnisation seule, il faudra avoir recours à une nouvelle expertise à vos frais. Si vous avez une assurance protection juridique, celle-ci peut prendre en charge les frais de votre expert. Si malgré une nouvelle expertise, votre expert et celui de l'assurance ne sont pas d'accord, il faudra faire désigner un troisième expert dont le coût est souvent réparti entre l'assuré et l'assureur. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une convention IRSI ?
Alors, donc, la convention RCI, donc, en fait, c'est la convention interassureur d'indemnisation des recours et des sinistres immeubles, a été mise en place pour le traitement des sinistres dégâts des eaux et incendies lorsque plusieurs assureurs sont impliqués à des titres différents. Donc, ça va être l'assurance de la copropriété, l'assurance du locataire et l'assurance du propriétaire le plus souvent. Donc, elle remplace l'ancienne convention qu'on appelait CIDRE. Elle concerne donc tous les sinistres inférieurs à 5000 euros hors taxes et ceux qui sont supérieurs étant gérés par le droit commun. Donc elle va notamment permettre de désigner l'assureur gestionnaire du sinistre. Souvent, cela sera l'assureur de l'occupant du local en cause, mais il existe des exceptions, comme par exemple en cas d'infiltration par les façades, ou en cas de phénomène de condensation, ou encore en cas de fuite de canalisation enterrée. En cas de sinistre, l'un des assurés peut parfaitement s'opposer à l'application de cette convention, et les règles classiques de droit commun donc s'appliqueront. Alors Sarah, est-ce que je dois payer la recherche de fuite ?
Alors, il s'agit d'un sinistre où la convention IRSI s'applique. La convention désigne l'assureur qui doit organiser la recherche de fuite et prendre en charge les frais occasionnés par la démarche, sans franchise ni plafond. Il s'agira ici de l'assureur de l'occupant de local, sauf cas particulier prévu par la convention. Par exemple, quand cela sera l'assureur du propriétaire non occupant, si la recherche de fuite nécessite une destruction dans le local ou encore si le logement est loué meublé. En dehors de ce cas, la prise en charge par votre assurance des frais de recherche de fuite n'est pas automatique et dépendra de votre contrat. Sachez toutefois que les assurances membres de la Fédération française des assureurs se sont engagées à prendre en charge les frais de recherche de fuite. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire comment se calcule l'indemnisation ?
Alors, pour connaître l'indemnité à laquelle vous pourrez prétendre, il conviendra en premier lieu de déterminer si le dégât des eaux est bien couvert par votre contrat. Si oui, l'indemnisation sera calculée lors de l'expertise. Alors là, il y a deux cas de figure. Si un tiers n'est pas responsable de votre sinistre, ce sont les règles du contrat qui vont s'appliquer. Cela signifie que des franchises, des règles en matière de vétusté ou de plafond de garantie vont s'appliquer. Le principe reste toutefois que le montant de l'indemnité ne peut dépasser la valeur du bien au jour du sinistre. En effet, une indemnisation par l'assureur ne doit pas permettre un enrichissement de l'assuré. Alors par contre, si c'est un tiers, donc par exemple un voisin ou la copropriété qui est responsable du sinistre, vous devriez être indemnisé de votre dommage par le ou les responsables. Cependant, en pratique, du fait des conventions signées entre assureurs, ce pourra être votre propre assureur et ou celui de l'immeuble qui vous indemnisera. Une fois la somme versée, vous pouvez en principe en disposer librement. Rien ne vous empêche, sauf rares exceptions, à affecter l'argent aux travaux de réparation. Alors Sarah, qu'est-ce qui va se passer si un sinistre se déclare alors que j'ai déjà donné mon congé à mon bailleur pour quitter le logement ?
Alors, si c'est le cas et que vous avez déjà donné congé au moment du sinistre, c'est alors l'assureur de votre propriétaire qui prendra en charge le sinistre au titre de la convention IRSI. Toutefois, cela ne vous dédouane pas de l'obligation de déclarer ce sinistre à votre assureur dès que vous en avez connaissance. Si les réparations ne sont pas faites au moment du départ, cela ne doit pas avoir d'incidence sur la restitution de votre dépôt de garantie, car votre bailleur devrait être indemnisé par son assureur. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion ?
Alors si le dégât des eaux a son origine chez un voisin qui n'est pas assuré ou dont l'assureur refuse de vous indemniser, ou s'il a pris naissance chez vous sans que l'on puisse vous reprocher une faute ou une négligence, par exemple comme le mauvais entretien des appareils, vous pouvez vous retourner contre votre propriétaire si cela vous empêche de profiter de votre logement. N'oubliez pas que, comme dans toutes les assurances, il existe des limites à vos garanties et votre indemnisation, et que même les clauses d'indemnisation dites de valeur à neuf ne permettent pas nécessairement de racheter un bien de même catégorie. Même si cela peut paraître fastidieux, il faut donc bien étudier les propositions d'assurance et pas simplement le prix demandé par l'assureur pour choisir son contrat afin de bénéficier des meilleures prestations possibles pour des cotisations similaires. Après, si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à solliciter notre association ou toute autre association de consommateurs.
Alors moi, j'ai justement une petite question. Merci beaucoup déjà. Vous dites, si l'envoi d'un expert est souvent réalisé en cas de dégâts des eaux, c'est pas automatique. Si le sinistre est minime et que l'indemnisation en jeu ne dépasse pas les 1600 euros hors taxes, alors l'assureur n'enverra pas automatiquement un expert. Mais comment l'assureur peut savoir que ça ne dépassera pas les 1600 euros hors taxes ?
Ça va découler de la déclaration du sinistre. En fait, l'assureur va vous demander des photos, par exemple, hein, de ce qui a pu être dégradé. Si c'est simplement un plafond qui est très légèrement touché, qui a peu eu de dégradation ailleurs sur votre mobilier ou ce genre de choses, ça, il va très vite voir que l'indemnisation sera assez faible à mettre en place. Donc, ça va dépendre de ça. Après, c'est de toute façon, s'il y a un doute sur la quantité, sur l'importance du sinistre, L'idéal, c'est d'essayer de faire des devis, etc., pour démontrer à l'assureur qu'il y aura peut-être plus que 1 600 € hors taxes en jeu pour qu'il envoie un expert pour chiffrer.
Ça arrive souvent d'avoir des personnes comme ça qui viennent vers vous pour vous poser des questions concernant des dégâts des eaux.
C'est encore assez fréquent, oui. C'est en matière d'assurance, c'est quand même quelque chose qui peut poser assez régulièrement problème, notamment quand il y a des choses où il y a beaucoup de parties en cause, et notamment où les fuites prennent leur origine dans l'immeuble d'une copropriété, où c'est vraiment les parties communes qui sont touchées, comme la toiture ou ce genre de choses, parce que là, les délais pour faire intervenir des artisans, etc., sont beaucoup plus longs, puisque c'est toutes les règles de la copropriété qui vont s'appliquer.
Très bien, merci beaucoup Benjamin Capelli, juriste, et Sarah Lambert, étudiante en droit, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir présenté votre chronique. On le rappelle, vous êtes membre de l'association de protection des consommateurs UFC Que Choisir. On vous retrouve le mois prochain pour parler d'un autre sujet de consommation. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.